l'on fait dans 9 mois et qui s'appelle donc Observer pour connaître et s'émerveiller. Et donc, elle sera donc proposée par Sébastien Prost, qui va donc vous présenter d'une part son parcours et vous présenter aussi un thème lié à l'environnement. L'idée, c'est qu'il y a un temps de mini-conférence avec donc des notions scientifiques, puisque la culture, la délégation académique et la science scientifique souhaitent valoriser les sciences au niveau de notre académie. Et puis l'idée aussi, c'est qu'il y a un échange et pas un monologue. Et puis du coup, non. Toutes les questions que vous souhaitez, donc à M. Prost. Je ne vais pas parler plus longtemps, donc laisser la parole à mon collègue. À tout à l'heure. Merci.
Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Bastien Prost. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite conférence donc, qui s'intitule « Observer pour connaître cet émerveillé ». Donc, comme cela vient de vous être dit, l'objectif, c'est à la fois de vous parler de mon parcours, c'est que vous compreniez un petit peu dans mon activité aujourd'hui qui est liée à la science, quel a été aussi mon parcours scolaire et puis universitaire ensuite. Et ça vous donne un petit peu peut-être des envies ou des compréhensions de comment, à travers nos études, on arrive ensuite à un certain métier. Et donc, comme on l'a dit aujourd'hui, on est sur la thématique des sciences. Et donc, moi, je travaille plutôt dans les sciences de l'environnement liées au milieu marin. Voilà. Donc, d'abord, je vais vous présenter mon parcours. Ensuite, le travail que je réalise aujourd'hui à travers un projet en particulier. Et puis, on pourra échanger sur des questions après la présentation, d'accord ? Je vais voir si c'est bon de ce côté. Est-ce que tout le monde est connecté ? Est-ce que je peux lancer la présentation ? C'est bon ? Okay. Je vais me mettre ici, comme ça je pourrai passer les diapositives et puis vous verrez en même temps ça vient l'écran. Je vous dis, je m'appelle Bastien Prost. Donc pour commencer. Voilà. Ok. Donc, en termes de parcours, alors j'ai commencé à partir du bac. Donc, comme vous, j'ai été au collège et puis après j'ai été au lycée. Et après j'ai fait ce qu'on appelait alors à l'époque un bac S. Donc, comme vous voyez, j'ai passé mon bac en 2001. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y a certaines noms de spécialités, d'orientation qui ont un peu changé, mais donc j'ai passé un bac scientifique. Ensuite, après ça, je suis parti un petit peu aussi à l'étranger. Alors, j'ai commencé, d'ailleurs, oui, effectivement, j'ai oublié une petite ligne. J'ai commencé à l'université, à Paris. Et puis ensuite, je suis parti à Montréal. Oui, ça paraît. Je suis parti à Montréal et pour faire ce qu'on appelle un échange CREPUC. Je crois que cet échange existe toujours, il me semble. Donc, il me semble que c'est possible pour les étudiants calédoniens de partir au Canada pour aller étudier à l'Université de Montréal ou d'autres universités. Donc l'intérêt, c'est que ça permet d'aller voir aussi d'autres pays, d'autres façons de faire, tout en ayant un cursus qui est somme toute relativement similaire à ce qu'on peut faire dans nos universités. Ensuite, dans ce parcours universitaire, donc ça durait plusieurs années, hein, une licence, ça dure entre 3 et 4 ans, j'ai fait ce que je rappelle aussi une année de césure. Une césure, ça fait une année pendant laquelle j'ai arrêté mes cours à l'université et je suis parti dans un autre pays, donc là, la Nouvelle-Zélande, pour aller, découvrir aussi un autre pays. Et là, j'ai fait des stages. Donc, je suis pas parti en vacances, hein, j'ai fait des stages. Donc, je suis allé travailler dans une université, dans un laboratoire et après dans un organisme de recherche. J'étais toujours étudiant, mais je travaillais avec des chercheurs pour voir comment est-ce qu'eux, ils faisaient dans leur travail de tous les jours. Et ça, les stages, c'est vraiment intéressant et important pour bien comprendre comment ça se passe dans la vie réelle. Alors, moi, j'ai fait des stages dans le domaine de la science sur le milieu marin, mais ça peut être des stages, on peut faire des stages dans tout, hein. On peut faire des stages en cuisine, on peut faire des stages en mécanique, on peut faire des stages dans tout un tas de domaines. Et ensuite, j'ai terminé mes études universitaires en faisant un master d'écologie, toujours à l'université à Paris. J'ai fait en parallèle aussi ce qu'on appelle l'école normale supérieure, donc c'est des choses qui se font en parallèle. Alors, on accueille d'autres élèves qui sont dans un autre collège. Merci. Donc il y a les universités, il y a aussi il existe des écoles. Donc moi j'ai fait un peu les deux en parallèle. Dans d'autres domaines, vous pouvez faire aussi des écoles. Il existe des écoles en commerce, des écoles en télécommunication, des écoles en ingénierie, des écoles en technique informatique et robotique. Il existe plein d'écoles ou d'universités. Et ça sera un petit peu aussi à vous plus tard de choisir les spécialités qui vous intéressent. Ensuite. Après les cours à l'université et à l'école, alors on appelle ça à l'école, mais c'est pas l'école primaire, hein, j'ai fait ce qu'on appelle une thèse de doctorat. Alors la thèse de doctorat, ça c'est un petit peu particulier, c'est le dernier niveau d'études qu'on peut faire. Alors on fait pas tous thèse de doctorat, mais là c'est des études un peu spécifiques, c'est-à-dire que on réalise une étude. C'est-à-dire on va pas à des cours avec des professeurs. On fait un travail et on étudie quelque chose. Ça, c'est assez spécifique aux sciences. Donc, j'ai fait une thèse en écologie marine et moi, j'ai étudié comment est-ce qu'on va gérer la pêche dans le lagon de Nouméa. Donc, pendant 4 ans, j'ai travaillé là-dessus avec les pêcheurs, avec les chercheurs pour voir un peu comment on pouvait améliorer la gestion de la pêche dans le lagon de Nouméa. Donc, ça, c'est vraiment mon parcours. Après le bac, les études que j'ai. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Alors, quand j'ai commencé à travailler, d'abord, j'ai été chargé de mission à l'Agence des aires marines protégées. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai travaillé dans un bureau avec d'autres personnes pour savoir un peu comment est-ce qu'on pouvait gérer les réserves. Donc, est-ce que, j'imagine que ça vous parle, les réserves en face de Nouméa, on en a plein. On a l'île au Canard, par exemple, l'île au Maître. Le Faramédé, le récif Aboré, on a la réserve Merlet, tout un tas de réserves marines, pour ce qui me concerne, on a des réserves terrestres aussi. Hein. Dans les réserves terrestres, on a le parc des Grandes Fougères, le parc forestier, des espaces comme ça, le parc de Havre. On a tout un tas de réserves. Okay. Moi, j'étais chargé de faire ça. Ensuite, je suis devenu ce qu'on appelle auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ça veut dire que on travaille finalement à son compte, on travaille pour soi-même. On n'est pas salarié dans une entreprise ou dans un organisme. Moi, j'ai créé ma propre entreprise et je suis devenu ce qu'on appelle consultant, c'est-à-dire que les personnes font appel à moi pour que je travaille pour eux. Donc, par exemple, ça pouvait toujours être des chercheurs, des scientifiques qui avaient besoin de moi pour les aider dans leur recherche. Ou ça pouvait être, par exemple, la province ou le gouvernement qui avait besoin de moi pour que je les aide dans la gestion justement des réserves. Et donc j'ai créé ensuite le bureau d'études Squall pour continuer à mener ces missions. Et ensuite, en plus de ce bureau d'études, j'ai aussi créé un club de plongée qui s'appelle Odyssée. Et donc là, je vais surtout emmener des gens découvrir le milieu marin. C'est-à-dire que là, je ne vais plus l'étudier, je l'étudie avec des scientifiques, mais à côté, je vais aussi emmener des gens, découvrir ce milieu marin, leur faire découvrir pour aller aussi surtout s'émerveiller de la beauté de notre lagon. Alors, on va voir si ça passe. Je vais un petit peu réagir. Ça a mis un peu longtemps. La souris peut-être. Ah. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je vous parlais de motivation parce que c'est important de quand on fait des études, quand on choisit un parcours, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ça peut être il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer. Peut-être c'est un domaine qui vous intéresse tout particulièrement. Peut-être c'est un domaine dans lequel vous vous dites là, il y a des débouchés, je vais trouver facilement un emploi. Peut-être ça va être parce qu'on vous en a parlé, vous vous dites pourquoi pas, je vais essayer ça, et il y a plein de raisons. Donc moi, j'ai expliqué mes motivations. Mes motivations, c'est d'abord une passion. J'ai toujours été, depuis que je suis tout petit, passionné par le milieu marin et le milieu sous-marin. Donc j'avais envie de continuer à faire des études qui me permettent de travailler dans ce domaine. Donc j'ai choisi cette étude, et comment j'ai choisi cette étude, et ce qui m'a motivé, c'est comme j'ai dit, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vécu au bord de la mer, j'étais passionné de la mer, j'avais envie d'aller sous l'eau, et c'était aussi des rêves d'enfant, quand je regardais la télé, ou je regardais des documentaires, des reportages, et notamment les documentaires de Conan Cousteau, ça m'a fait rêver, et j'ai eu envie de continuer dans cette voie-là, et puis quand je suis devenu plus grand, je me suis dit, comment je vais faire ça? Et je me suis dit, si j'ai envie d'aller sous l'eau, d'étudier le monde sous-marin, faut que je devienne scientifique. Alors comment je vais faire pour devenir scientifique dans le milieu marin? D'abord, je vais faire un bac S, et puis après, je vais faire des études à l'université sur la biologie et l'écologie des êtres vivants et tout ça. Et puis c'est tout un parcours comme ça. Alors, c'est pas toujours aussi simple. Là, je vous le résume aujourd'hui, la démarche que j'ai, mais ça a pris des années, et puis c'est plein de questions à se poser, et puis vous aurez d'ici quelques années des choix d'orientation, et puis là-dessus il y a vos professeurs et puis aussi les conseillers d'orientation qui peuvent vous aider à faire vos choix en fonction de ce que vous avez envie. Alors aujourd'hui, en quoi consiste mon métier? D'abord, mon métier consiste à observer, donc à aller sur l'eau, dans l'eau, sur le lagon, sur les récifs, pour aller observer ce qui s'y passe. Ensuite, à partir de ces observations, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le lagon, comprendre comment grandissent, vivent les coraux, par exemple, et comprendre pourquoi parfois il peut y avoir aussi du blanchissement, des dégradations, comprendre comment se reproduisent les poissons, et comment on va pouvoir mieux les protéger pour pouvoir continuer à les pêcher et toujours avoir autant à manger si on veut. Plein de questions comme ça. Et aussi, ensuite, transmettre. Transmettre, c'est transmettre aux gens autour de nous. Ça peut être transmettre à des gestionnaires qui vont prendre des décisions sur comment on va faire pour la réserve. Mais c'est aussi transmettre à vous, transmettre aux jeunes, pour vous donner ces notions, cette compréhension, aujourd'hui, pour que ça chemine, que ça vous donne des idées pour plus tard dans votre vie d'adulte. Donc, comme j'ai dit, avant tout, pour moi, c'est une passion de plusieurs métiers. Donc, je gère aussi une société. Comme je vous dis, j'ai créé un bureau d'études, j'ai créé un club de plongée. Ça nécessite de gérer une entreprise au jour le jour. Ça veut dire, c'est pas toujours que, justement, la passion qui m'intéresse. C'est pas toujours aller dans l'eau, plonger. C'est aussi, parfois, faire des factures, des devis, faire de la comptabilité, envoyer des emails, plein de choses comme ça. Et c'est aussi le métier de plongeur, biologiste marin, c'est-à-dire aller sous l'eau, aller faire des mesures. Par exemple, pour aller ici, on s'intéresse dans les baies du Sud à aller suivre la croissance des coraux. Et c'est aussi un travail de statisticien. Statisticien, ça veut dire analyser, en simplifiant, on va dire, de manière mathématique, les données qu'on a relevées sur le terrain. On fait plein de mesures, après, on va analyser ces valeurs pour essayer de voir comment notre corail il a poussé, comment nos poissons se sont multipliés ou pas. Et puis, on va faire ce qu'on appelle des expertises, on va rédiger des rapports, on va faire des cartes, on va faire des graphiques. Donc, tout ça, c'est un travail aussi de bureau où tout ce qu'on apprend en classe, c'est utile. On apprend justement, on va faire des calculs de moyenne, des calculs de maximum, de minimum. On va expliquer ça, on va mettre ça en forme sur des graphiques. Et donc, tout ce que vous apprenez aujourd'hui, ça pourra vous servir plus tard dans tout un tas de métiers. Je fais aussi du développement technologique. Donc, par exemple, on crée des nouvelles caméras pour aller observer le milieu marin. Et comme je l'ai dit, j'ai aussi plus récemment créé un club de plongée, donc c'est aussi le métier de moniteur de plongée, emmener les gens à découvrir le milieu marin. Et dans ma passion, je fais aussi beaucoup de photos sous-marines. Donc cette photo, c'est aussi ça permet d'aller justement aussi observer, comprendre et transmettre. Donc ces images-là, eh ben, je peux les exposer, les transmettre, soit avec les gens avec qui je travaille pour expliquer, montrer ce qu'on fait, et aussi pour un aspect plus artistique à travers des expositions. Et dans la transmission, bah, il y a aussi le métier d'animateur. Donc aujourd'hui, je vous fais une conférence, mais il y a plein d'autres moments où je vais dans les classes. Ça m'est déjà arrivé de venir ici au collège. Et je vais faire de la sensibilisation à la préservation des écosystèmes. Donc là, je vais expliquer, bah, par exemple, qu'est-ce que c'est que le récif, comment fonctionne ce récif, de quoi il est constitué, les polypes coralliens, et puis tous les animaux qui vivent dessus, et comment on va justement préserver ce récif. Et puis aussi, bah, il y a l'aspect qu'on appelle porteur de projet, entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on a une idée, on a envie de réaliser cette idée, et bah, il faut aller la réaliser. Et puis, bah, voilà, c'est à nous de créer ce projet et de se dire, bon, bah, voilà, comment je vais faire, avec qui je vais travailler, comment je vais trouver des budgets pour réaliser ce projet, et comment concrètement, techniquement, je vais le mener à bien. Vous voyez qu'il y a plein de facettes, c'est une passion, mais plein de métiers différents dans ce que je réalise aujourd'hui. Et donc, vous voyez aussi, vous pouvez comprendre que quand vous êtes en cours avec différents professeurs, vous apprenez différentes choses, justement, ça va pouvoir intervenir après dans votre métier. Là, moi, par exemple, quand je suis gérant de société, bah, j'apprends plutôt... je rédige des emails, donc c'est bien d'être assez à l'aise dans la rédaction. Moi aussi, je fais de la comptabilité, c'est bien d'être à l'aise en mathématiques. Quand je suis plongeur biologiste, bah, c'est bien d'être sportif, donc d'avoir appris à gérer son endurance, à gérer ses efforts. Quand je suis statisticien, bah, là, je fais plutôt des mathématiques. Quand je fais de la rédaction de rapport, bah, là, c'est plutôt du français. J'apprends à écrire, à rédiger, à mettre en forme. Voilà, quand je suis développement technologique, bah là j'apprends plutôt à faire de la technique, parfois on apprend des casteurs, de la soudure, mettre en forme des métaux, des choses comme ça. Moniteur de plongée, bah là j'apprends plutôt à m'exprimer et à transmettre ce que je connais. Quand je suis photographe, bah là j'apprends aussi plus de la technique ou du côté artistique, comment est-ce que je mets en valeur, en forme une scène. Animateur, bah c'est plus les aspects de prestation orale. Et porteur de projet, ben ça c'est aussi la motivation. Donc vous voyez que tout ce que vous apprenez un petit peu chaque jour avec vos différents professeurs, ça peut vous être utile dans vos métiers. Alors maintenant, je vais vous parler d'un projet en particulier, donc le projet Immersion 360. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet? Et ben, là, c'est pour vous donner quelque chose de concret, vous montrer ben, quand on est porteur de projet, qu'est-ce qu'on va faire, et puis là, ben, concrètement, moi, dans le domaine du milieu marin. Alors, ce projet, il s'appelle plus particulièrement Immersion au cœur des lagons de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un projet qui est basé sur des technologies de caméra 360 en réalité virtuelle. Donc, vous voyez ici deux images. Une image d'une caméra sous l'eau. Alors, juste un instant, on va la mettre. Hop. Donc, là, vous voyez, on a une caméra sous l'eau qui a plusieurs objectifs. Il y a une caméra ici terrestre avec plusieurs objectifs aussi. On voit celle qui est sous-marine là, qui est là sur le côté. Donc, ces caméras-là, eh bien, nous permettent de réaliser sous l'eau et sur terre des images à 360 degrés. Et ces images-là, à quoi elles vont nous servir? Elles vont nous servir donc à observer. On va reprendre nos trois éléments de tout à l'heure. On va faire d'observation du milieu. On va aussi pouvoir mieux le comprendre, parce que ces images-là, on va pouvoir les utiliser pour faire de la science, pour étudier le milieu sous-marin. Et aussi, elles vont nous permettre de transmettre, parce qu'elles vont nous permettre de montrer à tout le monde, à vous, au grand public, ce qui se passe sous l'eau et comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, c'est une image dans un laboratoire avec des scientifiques qui vont étudier les images que l'on fait avec ces caméras. Et donc là, je vous ai mis un exemple en dessous d'un ouvrage qui s'appelle Reef at Reef. Donc ça, c'est parce que c'est en anglais, parce que c'était avec des Australiens. Et donc, bah, à travers toutes les images qu'on a faites et l'analyse de ces images, étudier les récifs coralliens de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie grâce à ces technologies. Un autre exemple, par exemple ici, vous avez un logiciel qui va utiliser les images qu'on fait pour déterminer la couverture corallienne. Maintenant, sur l'aspect transmettre. Ces images à 360, en fait, on les utilise pour créer des contenus qu'on va pouvoir diffuser dans des casques de réalité virtuelle. Vous voyez ici, sur cette image-là, deux enfants qui vont pouvoir justement quasiment aller sous l'eau à travers ces images à 360 qu'on a réalisées, mais tout en étant dans leur classe. Donc ça nous permet de venir et de vraiment expliquer et d'emmener les gens sous l'eau de manière très facile, très simple. Alors là, on va essayer de lancer la vidéo. Normalement, hop. Ouais, ça.
You can pick anywhere in the world that you want to go. Where would you want to go?
I would like to go to the moon,
Thailand,
Asia, Greece,
India,
to Nigeria, my homeland.
One or maybe all of the seven wonders of the world.
When you explore different places, you have the chance to actually learn something new.
You want to be able to show the kids that there's something outside of your community that you could go to and learn from, and that there's other places you can visit.
All right, so let's do our objective, and we'll talk about the lesson for today.
We're going to take a field trip to Verona, Italy, to see the place where Romeo and Juliet lived.
I'm going to take you on this field trip under the water. Okay, you guys ready? Pick up your devices and look in your cardboard.
Whoa!
It allowed us to go somewhere we wouldn't normally be able to go.
Are we in China?
This is the Great Wall of China.
We got to see the place itself so we could actually understand what she was talking about.
How long would it take to walk the length of the Great Wall of China?
So much more enriching than just showing them a picture or just having them read about it.
This device can actually make us go to places that we've never been before.
It brings the lesson to you.
And you have to see it for yourself to believe it.
There's so much other places to see, so you know that it's never going to end.
Voilà, cette petite vidéo, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire grâce à ces techniques. Donc aujourd'hui, nous, on est en train de travailler dessus. Là, on vous a montré des vidéos qui ont été tournées dans d'autres pays avec nos partenaires australiens, et on est aujourd'hui en train de créer ces outils-là pour la Nouvelle-Calédonie. On espère que l'année prochaine, ce soit opérationnel et qu'on puisse commencer à venir dans les collèges pour justement pouvoir vous faire découvrir surtout les lagons de Nouvelle-Calédonie et vous les montrer grâce à ces casques-là. D'accord ? Donc voilà, ça vous montre un petit peu à travers ces outils-là et ce projet-là comment on peut aller observer, étudier et puis transmettre, enfin, vraiment jusqu'à vous, tout ce qu'on apprend et tout ce qui se passe dans notre milieu. Alors d'autres illustrations de ce qu'on peut faire, là vous avez vu des animations en place, mais on peut faire aussi des expositions pour le grand public, donc là par exemple en extérieur, avec des photos qui sont remises à plat, et puis aussi la possibilité de mettre ces photos dans des casque de réalité virtuelle ou même de les voir sur des Voilà, je suis arrivé à la fin de cette présentation, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, et du coup on a un petit temps d'échange, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on a un petit temps d'échange. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur le parcours, sur les études, sur la science, sur ou sur le projet, sur le projet que vous avez présenté, sur les caméras 360, tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et ceux qui sont à distance, je crois qu'ils peuvent poser des questions aussi. Hein. N'hésitez pas, normalement, on vous entend. Vérifiez juste bien que votre micro soit activé. Oui.
Oui, je voulais voir si sur la Au collégien, mais est-ce que vous avez aussi au lycéen ?
Alors, a priori, ce sera principalement au collégien, mais bon, peut-être qu'il y aura aussi un petit peu au lycéen. C'est possible. Alors, généralement, quand c'est les lycéens, c'est plutôt les secondes, parce que les premières et les terminales, généralement, sont quand même un petit peu plus occupées pour le bac.
sur les réserves, mais seulement en Calédonie ou partout dans le monde?
Alors, comme je l'ai dit, je travaille quand même beaucoup avec des Australiens. Donc, on travaille un petit peu aussi sur certains récifs en Australie, mais le projet se concentre quand même principalement, en très grande majorité, sur les récifs et lagons de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Alors, on ne travaille pas spécifiquement sur la problématique des requins, ça fait partie d'un ensemble, c'est-à-dire que nous, on va travailler sur tout un tas de sujets de ce qui se passe dans nos lagons. Les requins en font partie. Et sur ce projet-là, on ne s'intéresse pas particulièrement à la problématique actuelle sur les requins. On va regarder les requins dans leur globalité. Ouais. Non, en plongée, généralement, c'est plutôt les animaux qui ont plutôt un petit peu plus peur de nous. Même les requins, généralement, ils sont plutôt assez distants. On plonge avec des bouteilles, on fait des bulles. Généralement, les requins ne nous approchent pas trop. On les voit, hein, mais j'ai jamais eu de mésaventures de ce côté-là.
Pour une immersion, vous travaillez avec d'autres agences ou vous faites ça vous et votre équipe?
Alors, moi et mon équipe, comme j'ai dit, on a un partenariat avec les Australiens. Donc, les Australiens, eux... le nom de leur organisme, c'est Underwater Earth. Donc, c'est eux un petit peu qui ont été les précurseurs au départ, qui ont inventé les premières caméras sous-marines transportantes. Maintenant, ça a évolué. Mais à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans, c'est eux qui avaient inventé les premières caméras. Et donc, on travaille ensemble. Donc, ils sont déjà venus 2 fois. Et puis, normalement, ils vont revenir aussi pour continuer à faire d'autres missions.
À la fin de la pub, il y avait le...
Alors, parce qu'en fait, on utilise des technologies, après pour la diffusion, on utilise des technologies de Google vraiment pour la partie diffusion. Oui, toi?
Oui, il est accessible à tous les adultes?
Oui, aux adultes et même aux enfants. Parfois, la plongée sous-marine, elle est accessible à partir de 8 ans. Donc, vous avez déjà dépassé cet âge-là, donc la plongée sous-marine peut être pratiquée à votre âge. Donc après, ben, y a des baptêmes ou des passages de niveau. On peut passer des niveaux, puis s'améliorer, progresser. Ouais. La plongée, ok. Ben, alors, il n'y a pas que mon club, hein, il existe plusieurs clubs. Et ben, il faut appeler et puis ben, il faut réserver suivant ce que vous voulez faire. Comme je disais, ben, en plongée sous-marine, généralement, on commence par un baptême, comme dans beaucoup de sports. On vient découvrir le sport, donc on fait un baptême, et puis après, bah, si on aime ça, eh ben, on peut aller passer des niveaux pour progresser et puis s'améliorer dans ce sport-là. Ouais.
Alors, les élèves, n'hésitez pas à porter votre voix parce que comme ça, les autres élèves dans les autres classes peuvent vous entendre. Vous avez compris qu'on est en interaction avec un autre collège.
Donc,
là, actuellement, on est en train de vous entendre par les micros qui sont là-haut. D'accord,
d'accord.
Donc, n'hésitez pas à poser très fort vos questions.
Okay. Alors, qu'est-ce que vous avez fait et que vous avez dit, je vous ai dit que vous avez créé le projet Immersion?
Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai créé ce projet-là? Ben, moi, ça faisait déjà longtemps que je travaillais dans le milieu marin, dans le milieu sous-marin. Ça faisait déjà longtemps que je faisais de la photo sous-marine. Et que j'utilisais aussi des caméras pour étudier le milieu sous-marin. Et puis, des gens avec qui je travaillais, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ces petites idées au départ, dire que ce serait intéressant d'utiliser telle technique pour telle caméra pour étudier ceci ou telle autre caméra pour étudier cela. Donc voilà, les idées qui ont commencé un petit peu dans ma tête. Et puis ensuite... en fait, on a été soutenu aussi dans notre projet, c'est-à-dire qu'il y a le gouvernement qui a fait ce qu'on appelle un appel à projet. Donc ça existe dans plein de domaines, des appels à projet. On dit, si vous avez des idées dans tel domaine, on va donner, on va vous aider, on va vous donner un peu de financement pour vous aider. Et donc le gouvernement a fait ça. Nous, on a été retenus pour notre projet. Ils nous ont donné un peu d'argent pour nous aider. Nous, on a mis aussi de l'argent de notre côté. Et puis voilà, ça s'est créé comme ça petit à petit. Et puis après, on travaille avec plein de partenaires, avec des associations, avec les provinces, avec le gouvernement, pour créer des contenus Donc si vous allez sur des événements comme, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés, il y a eu la Journée mondiale des océans il n'y a pas longtemps, mais chaque année il y a aussi le Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Il y a tout un tas d'événements comme ça sur lesquels vous pouvez retrouver des contenus qu'on a créés avec des casques 360. Vous allez pouvoir découvrir des parties de la Nouvelle-Calédonie grâce à des images que l'on a faites.
Ouais. Vous avez découvert l'île aux proches ?
Pardon ?
Vous avez découvert l'île aux proches ?
Alors nous, on n'a pas découvert l'île aux proches à l'île des Pins, tu veux dire ?
Oui.
Alors l'île aux proches à l'île des Pins, il est connu depuis bien avant que je sois né.
Ah, mais
Donc nous, on va dans ces zones-là. Effectivement, moi j'ai déjà été à l'île aux Brosses, effectivement. Hein. Mais je veux dire, l'île aux Brosses, on l'a pas découvert. Il est connu depuis bien bien longtemps. Mais effectivement, on va dans plein de sites comme ça. Par exemple, on a été à l'île des Pins il y a pas si longtemps. Il y a 3 semaines, on a été à l'île des Pins avec des scientifiques justement pour aller étudier les zones de l'île des Pins. Ça paraît qu'on aille à plein d'endroits.
Dans votre carrière, quel a été le meilleur moment de votre carrière pour vous ?
Alors, quel a été le meilleur moment de ma carrière ? C'est difficile à dire. C'est toujours appréciable quand des projets se concrétisent. Donc, par exemple, après avoir travaillé pendant longtemps pour créer le projet, on fait la première mission en mer. Ça, c'est toujours très très sympa, très agréable de dire ça y est, enfin, toute cette énergie qu'on a portée, ça se réalise. Là, il y a d'autres étapes dans le projet. Donc là, on a une nouvelle étape importante pour essayer d'acquérir un navire pour pouvoir faire d'autres missions. Si ça se concrétise, ce sera un autre moment où je serai très content. Puis si ça se fait pas, peut-être que on avancera, on trouvera d'autres solutions. Et c'est toujours plein de rebondissements. Il faut déjà jamais désespérer quand c'est un peu plus difficile. Et puis profiter des moments où ça marche bien.
Et par exemple, travailler dans notre bureau dans l'eau.
Alors, est-ce que je préfère être au bureau ou dans l'eau? J'aime bien un peu l'alternance des deux. C'est-à-dire que c'est sûr que, comme je vous l'ai dit, c'est une passion d'être en mer et sous l'eau. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être sous l'eau, de plonger, d'observer les poissons, les coraux, les récifs. Et en même temps, j'aime bien être à mon bureau, étudier mes photos, écrire mes rapports pour savoir ce qu'on a pu observer. J'aime bien cette alternance des deux et trouver le bon équilibre. Alors parfois, il y a des gros moments au bureau où c'est un peu long. Ça m'arrive d'être un mois sans aller en mer parce que on a les gros rapports à écrire, il faut faire des dossiers pour faire les missions suivantes. Et puis et parfois aussi, on part longtemps en mer. Et puis dans les deux, parfois, quand on part 15 jours en mer, parfois 3 semaines, et parfois c'est intense, tous les jours on plonge, tous les jours le matin il faut préparer le matériel, il faut plonger, il faut remettre tout sur le bateau, il faut décharger les données, c'est intense aussi, c'est fatigant, mais en même temps on est content et quand on revient, c'est des bonnes expériences. Ouais.
Et
par exemple,
vous voyez
alors des animaux qui se blessent, c'est déjà arrivé. Par exemple, je me souviens d'une fois, on avait trouvé une tortue qui s'était blessée avec un fil de pêche. Elle avait un fil de pêche enroulé autour de sa nageoire. On a essayé de sous l'eau de lui dérouler le plus possible pour qu'elle se libère. Alors après, on ne sait pas si ça a suffi. Est-ce que ça lui a permis de survivre de sa blessure, tout ça, ça on saura pas. Mais il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on peut pas faire. Il y a des individus vraiment très blessés, les tortues notamment, on peut les amener à l'aquarium, ils ont les capacités de les soigner. Après, il y a d'autres animaux, c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir les attraper et les soigner. Un poisson, il va pas trop se laisser attraper, ou si c'est un animal beaucoup trop gros, on peut pas faire grand chose non plus. Mais bon, je te rassure, c'est très rare, c'est le seul exemple qui me vienne à l'esprit.
Est-ce que vous avez déjà vu des
poissons-pierres? Ah oui, on en voit très souvent des poissons-pierres.
Ouais.
Non, un poisson-pierre, c'est très calme. Je veux dire, ça reste posé comme ça. Il faut juste faire attention. Généralement, on ne pose pas les mains en plongée ni les pieds. Donc, on n'a pas de raison de se faire piquer en mettant la main dessus. Hein, et on, quand on est assez observateur, ben, on finit par, on le voit, et puis voilà, on fait, on observe, on fait attention, et puis, voilà. Ouais.
Par
exemple,
quand vous mangez, avec un fusil, je mets un couteau pour faire un filet.
Général, alors, on planche toujours avec un couteau. On planche toujours avec un couteau, c'est plus au cas où on s'en mêle. Si on s'en mêle dans un bout, dans une corde, dans un filet, pour pouvoir le couper et se libérer. Ça, c'est par mesure de sécurité. Voilà, après, il n'y en a pas d'autres raisons, généralement, de plonger avec d'autres matériels. Voilà. Si on a des situations particulièrement, ça m'est déjà arrivé de plonger dans le fort pour aller justement observer les requins. Bon, ben là, on plonge dans une cage, par exemple.
Vous qui plongez depuis un certain temps en Calédonie, est-ce que vous avez vu une évolution au niveau globalement sur le lagon calédonien et si oui, dans quel sens?
Alors, le lagon calédonien est très grand.
Oui, c'est des zones particulières.
Donc, on a des évolutions à plein de niveaux. On a quand même, au niveau des évolutions de dégradation, on a quand même... La principale dégradation, c'est l'érosion, donc c'est la terre qui arrive par les rivières, et ça, bah, c'est lié à la déforestation, que ce soit les mines ou les feux. Donc ça, on le voit bien dans pas mal de zones. Après, on a des dégradations qui sont liées aussi bah, quand on a des années où il fait très chaud. Bon, bah là, il va y avoir du blanchissement corallien. Donc là, bah, c'était surtout en 2016-2017. Les autres années, il peut y en avoir un petit peu, mais ça va, mais... A priori, avec le réchauffement climatique, bah, peut-être que ça va s'aggraver. Ça dépend aussi beaucoup de El Niño ou La Niña. On a plein de phénomènes qui jouent. Globalement, il semble que dans les zones hors réserve, il y a quand même un petit peu moins de poissons. On a quand même la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir beaucoup de réserves et d'avoir un certain nombre d'endroits où on a pas mal de poissons et bien préservés. Donc on a globalement la chance d'avoir des récifs en bonne santé en Nouvelle-Calédonie, mais il faut faire attention.
Alors les élèves, rappelez-vous.
Allez,
le dernier aussi.
Alors, on va commencer par Michel Rocard alors.
Merci. Je voulais faire une question par Alice. Oui. L'évolution des coraux.
Alors effectivement, en ce qui me concerne, je travaille très régulièrement avec eux. Donc là, on n'a pas de croisement de données. Moi, je travaille avec eux, c'est-à-dire que je vais avec eux pour observer les récifs dans leur suivi à eux. Et on a plutôt tendance à... Là, on doit partir justement prochainement avec eux pour faire les images 360. Là, pour l'instant, nous, nos données, elles sont assez différentes sur des aspects différents. Donc, on n'a pas eu à les croiser, mais par contre, on travaille ensemble pour pouvoir s'appuyer, s'aider l'un l'autre dans nos observations. Voilà.
J'ai aussi une question à Jules Garnier. Est-ce que Jules Garnier nous entend?
Oui, on vous entend.
Alors, quelle est votre question, Jules Garnier?
Vous voyez, lors de votre plaisir, est-ce que... ça a été dur de reprendre les études après?
Non, ça n'a pas été dur dans le sens où, comme je disais, c'était pas des vacances. Je suis allé en stage. Donc, j'ai fait deux stages et un stage dans une université et un stage dans un organisme de recherche. Donc, j'ai continué pendant ces stages-là, à étudier, à aller sur le... Alors j'ai fait plus de terrain, hein. Je suis allé en mer ou en rivière pour aller récolter des données et puis après j'ai fait des analyses en laboratoire. Donc certes j'avais plus de cours en classe, en amphithéâtre, mais j'ai continué à être dans le domaine de la science. Donc ça n'a pas été difficile, non, ça n'a pas posé de soucis, effectivement. Il a fallu revenir un petit peu s'asseoir sur une chaise pour écouter un professeur, mais voilà, comme j'ai dit, je ne suis pas parti en vacances, j'ai gardé le contact avec le monde de la science.
Alors, les élèves, vous êtes tous au courant qu'il y a actuellement un réchauffement climatique de la planète. On a étudié que les combustions libéraient du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et amplifiaient le phénomène de ce réchauffement climatique à l'échelle globale. Et est-ce que vous avez des questions entre le réchauffement climatique et les observations de ce scientifique, éventuellement à poser? Je pose ça aussi aux questions aussi au lycée et au collège qui nous occupe.
Alors là, on a une question.
Comment dire? Est-ce que ça, à cause du réchauffement climatique, la science en deux temps, ça peut, comment dire, ça peut provoquer des problèmes, des conséquences sur les îles et...
Ah bah, les conséquences donc de la fonte des glaciers ou de la banquise par le réchauffement climatique, la principale conséquence, c'est la montée du niveau de l'eau. Et ça, bah, pour nous, oui, imagine, regarde, on habite, je ne sais pas quel est le niveau exact d'élévation ici au collège de Magenta, mais bon, probablement que ça doit être pas plus de 10 mètres du niveau de la mer. Donc si le niveau de la mer augmente de quelques mètres, bah, ça pourrait arriver là. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire géologique de la Terre, le niveau de la mer, il a varié, hein, parce qu'il y a eu des cycles glaciaires, et quelques mètres, c'est pas énorme. À l'échelle de l'histoire géologique, le niveau de la mer, il a parfois varié de plusieurs centaines de mètres. Donc, si ça varie de quelques mètres, ça pourrait avoir des impacts très importants sur nous. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on est une île qui est plutôt un peu plus haute, mais il y a de la terre, mais surtout les îles du Pacifique où il y a beaucoup d'atolls pas très élevés, notamment, et ben les gens ils vivent à 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc il suffit de pas beaucoup pour se retrouver sous l'eau. Oui, là-bas.
La montée des eaux, ça impacte
le fond. La montée des eaux, ça impacte le fond marin, oui. Alors je vais prendre un exemple, il y en a peut-être pas, mais je prends un exemple, par exemple, sur nos récifs coralliens. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller souvent dans l'eau, d'observer un peu le récif. Les récifs coralliens sont constitués principalement de coraux, et ces coraux-là, ils ont besoin de lumière. Donc la majorité des coraux, ils sont proches de la surface, là où il y a le plus de lumière. Et nos coraux, ils ne poussent pas très vite. Si le niveau de la mer, ils montent plus vite que d'habitude, et que nos coraux se retrouvent plus profonds, ils auront moins de lumière, et du coup, bah, ça va être plus compliqué pour eux, pour vivre, pour se développer. Donc ça, ça va forcément impacter notre récif au fond marin. D'accord ?
Oui. J'avais une question, s'il vous plaît.
On passe la parole à M. Claudeau. Oui, allez-y.
Est-ce que vous avez déjà découvert, vous, votre équipe, une espèce inconnue d'animaux ou de poissons ?
Alors, non. Nous, on n'a pas découvert de nouvelles espèces. Alors, c'est pas ce qu'on recherche non plus. Nous, on va plutôt s'intéresser à des choses qui sont assez visibles et chercher à suivre dans le temps l'évolution des récifs et des populations d'animaux qui y sont. Mais après, d'autres personnes avec qui je travaille, ça leur arrive. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, on a fait une mission à l'île des Pins il y a 3 semaines avec des scientifiques. Là, on est allé chercher une espèce endémique et assez particulière en Nouvelle-Calédonie. Et en même temps, on s'est intéressé à des petits organismes qui s'appellent les nudibranches, des sortes de limaces de mer. Et ces scientifiques sont aussi allés les étudier à côté de Poume. Et bien là, ils ont découvert des nouvelles espèces. Donc pas plus tard que la semaine dernière, il y a des nouvelles espèces de nudibranches qui ont été découvertes en Nouvelle-Calédonie.
Moi aussi j'avais
une question.
Oui.
Quelle est ta question?
Je voulais savoir c'est quoi votre chiffre
d'affaires. Alors ça peut être assez variable. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect bureau d'études. Donc là, c'est vraiment l'étude scientifique quand je travaille avec les organismes de recherche comme l'IRD, comme l'IFREMER, comme le MUSEUM, ou avec les provinces. Donc ça va être la partie pour étudier le milieu marin. Et puis après, il y a le club de plongée. Donc déjà, il y a 2 activités différentes. Alors, en termes de chiffre d'affaires, ça peut varier aussi en fonction des années, parce que quand on part en mer, il y a des gros moyens. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, on va affréter un bateau. On va affréter du matériel de plongée. On va faire venir des équipes. Donc, ce chiffre d'affaires, il peut varier énormément. C'est-à-dire que si on a une année où il n'y a pas de grosses missions, ça va plutôt être parfois si on part juste à la journée avec le petit bateau, des choses comme ça, on va dire qu'on va avoir un chiffre d'affaires annuel autour de 8 millions de francs à peu près. Et si on a des grosses missions et qu'on part en mer plusieurs jours avec un gros bateau, avec des équipes, ben on peut avoir des années où on va avoir un chiffre d'affaires de 20, 30 millions de francs parce que ben on a dépensé aussi beaucoup de... on a mis en jeu des sommes importantes pour avoir des gros bateaux, des équipes, du matériel. Donc ça va être assez variable, mais en tout cas, voilà, tu peux considérer que dans mon activité tout compris, on va avoir un chiffre d'affaires qui va varier entre... Merci. Qui va varier entre 8 et 30 millions de francs par an.
Ok, merci.
On vous dit bonjour hein, du collège de Majata. Est-ce que les collèges et lycées qui nous voient ont aussi des questions sur le réchauffement climatique et les coraux?
Des questions sur les comme une conférence scientifique. S'il y a quelques données scientifiques, est-ce que vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur ce qui a été dit par M. Proust? Il y a des chiffres qui ont été donnés, par rapport notamment au projet 360, qui s'appelle maintenant comment? Peut-être avoir un éclaircissement d'informations par rapport à ce projet qui va être proposé à des collèges comme vous l'année prochaine. Oui, oui. Qu'est-ce que tu peux savoir?
Il ne faut pas avoir peur, hein, poser des questions, on est là pour ça aujourd'hui.
Oui. Je ne sais plus il y a combien de temps, il y a quelques années, on a entendu... J'ai entendu parler sur les réseaux qu'il y avait des poissons qui avaient été découverts à des endroits inconnus.
Est-ce que tu te souviens où c'était? Est-ce que c'était en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que
c'était
dans d'autres pays?
Pas sur d'autres pays, mais on a découvert des poissons qui étaient inconnus pour nous.
Ok. Oui, ça arrive, hein. Je veux dire, sous l'eau, c'est un milieu qui n'est pas facile d'accès. Alors, mettre un masque pour aller au bord de la plage, ça va. Mais après, il y a des zones très profondes et il y a des zones très éloignées.
Je crois qu'il y a une télé comme ça.
Donc ça arrive régulièrement qu'il y ait des découvertes. Comme je l'ai dit, on a découvert... pas plus tard que la semaine dernière, des nouvelles espèces de nudibranches en Nouvelle-Calédonie. Donc il existe des missions scientifiques qui découvrent des nouvelles espèces de poissons. Oui, généralement, c'est plutôt des espèces profondes, dans des milieux où on ne va pas souvent, et ben, quand on y va, on arrive à découvrir des nouvelles choses. Alors, tout au fond, là, oui, tu avais une question.
Est-ce que vous avez vu des gens qui pêchaient illégalement quand vous êtes parti?
Oui, ça m'arrive malheureusement régulièrement, un petit peu moins aujourd'hui, mais ça arrive...
Prévenir les autorités.
La procédure, c'est ça, c'est de prévenir... les autorités compétentes, donc on peut le faire en appelant tout simplement le 16 qui est ce qu'on appelle le MRCC, donc c'est eux qui gèrent un petit peu tout ce qui se passe, la navigation en mer, et après ben, eux ils font appel soit aux gardes nature, soit aux gendarmes, et puis voilà. On passe la parole un peu aux autres, ouais. Oui. Ah bah la barrière de corail, oui, on va la voir très souvent, parce que justement, c'est une des zones où on a beaucoup de récifs et puis beaucoup de poissons, donc on y va régulièrement. Je vois là-bas tout au fond.
Il y a pas la faille
au requin? Oui, la faille au requin, on y va, moi personnellement, en tout cas, avec les gens avec qui je travaille, on y va une à deux fois par an. Non, le samedi c'est le 15.
Ah, il y a une question.
Bonjour, vous êtes de quel collège ou de quel lycée, s'il vous plaît?
LMR.
On t'écoute, vas-y. Ok.
Par exemple, pour les coraux, il y a des blancs qui sont morts. Est-ce que ça arrive que des fois, il y a des autres algues qui vont recoloniser la structure dure du coraux?
Alors, quand le corail quand un corail devient blanc, il n'est pas forcément mort. Donc il y a plusieurs raisons. Le plus souvent, c'est parce que l'eau est trop chaude, mais c'est pas forcément la seule raison. Et il n'est pas encore mort. En fait, les coraux, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, soit en cours, soit avec des associations comme Paladalis. En fait, ce qui donne la couleur aux coraux, ce sont des petites algues qui sont dedans, qui s'appellent des zooxanthelles. Donc ces petites algues microscopiques, elles vivent à l'intérieur des coraux. Quand le corail blanchit, c'est les petites algues qui s'en vont, mais le corail, lui, n'est pas encore mort. Donc soit il survit et les algues, elles reviennent, il reprend sa couleur et puis ça repart. Soit elles ne reviennent pas, et là, effectivement, le corail finit par mourir. Et s'il meurt, et ben là, ce sont d'autres algues, elles ne sont pas microscopiques, elles sont macroscopiques, elles vont pousser par-dessus, elles vont venir s'installer dessus, et là, ça devient un petit peu, ben on les voit, elles poussent dessus, ça devient un peu vert, marron, c'est des algues qui poussent dessus. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.
Merci. On en a une autre question.
Ok, allez-y.
Est-ce qu'on pourrait faire un point sur votre parcours scolaire?
Un quoi?
Un quoi sur votre parcours scolaire?
Étudiant.
Ah, peut-être vous êtes arrivé après.
Voilà.
Ok. Donc ça, j'en ai parlé au début. Donc comme je disais, donc en résumé, comme vous, j'ai été à l'école, au collège, au lycée. À l'époque, j'ai fait ce qu'on appelait un bac S, un bac scientifique. Et donc après ce bac scientifique, j'ai fait des études à l'université. En biologie et puis ensuite en écologie et comme je l'ai expliqué en fait j'ai un peu voyagé dans mes études donc d'abord j'ai fait mes études à l'université à Paris, après je suis parti au Canada, j'ai fait un échange échange CREBUC et je crois que ça existe toujours aujourd'hui et que les Calédoniens peuvent le faire, donc ça permet de faire un échange et de partir au Québec. Je suis revenu à Paris à l'université et puis j'ai fait aussi une année en Nouvelle-Zélande, une année de césure, donc là j'ai fait des stages. Donc j'ai arrêté les cours et je suis allé faire des stages en Nouvelle-Zélande et après je suis revenu à l'université, terminer mes études. Voilà. Et après j'ai commencé à travailler. Voilà.
Après c'est une question qui est intéressante aussi pour les lycéens de Jules Garnier. Est-ce que vous pouvez expliquer à Jules Garnier par exemple, ça peut les intéresser, qu'est-ce que c'est le CREBUC?
Ouais. Alors, le CREBUC, je ne me souviens plus exactement ce que ça veut dire, mais en gros, c'est un programme d'échange universitaire. C'est-à-dire que vous, l'université, par exemple, vous êtes inscrit à l'université de Nouméa, à Nouville, et puis là, vous allez faire un dossier d'échange avec l'université, par exemple, de Montréal. Moi, c'était Montréal, mais il y en a d'autres. Et là, ça veut dire qu'en fait, vous partez un an au Canada, étudiez une discipline, et quand vous revenez, en fait, vous avez une équivalence, vous avez le même diplôme que si vous étiez resté à Nouméa, mais sauf que vous l'avez fait là-bas. Donc ça vous permet de continuer votre cursus, on va dire, comme si vous étiez à l'université, mais en même temps, vous avez découvert un autre pays, une autre culture, plein d'autres choses et d'autres façons d'enseigner aussi. Donc c'est vraiment des choses intéressantes, des échanges internationaux ou nationaux, hein, parce que quand vous passez de Nouméa aussi, si vous allez à Paris ou à Marseille ou à Bordeaux, ça fait quand même aussi une bonne découverte, un bon changement. Donc voilà, c'est des programmes d'échange universitaire et en tout cas, moi, je vous encourage à le faire. Et ça, il faut se renseigner auprès de la conseillère d'orientation ou de l'administration de votre lycée. Alors, une autre question ici.
Oui. Du coup, par rapport au réchauffement climatique, donc les coraux, ils vont avoir moins de lumière de lumière lumineuse, enfin l'énergie lumineuse. Et du coup, vous avez une solution pour pallier ça ou pas?
Alors, donc effectivement, si le niveau de la mer monte plus vite que les coraux sont capables de pousser, ils seront plus profonds, ils auront un peu moins de lumière. Donc ça va peut-être, ça peut les impacter et modifier leur croissance, leur développement et la vie sur les récifs. À terme, ça peut les tuer. Alors après, il peut y avoir des dynamiques, c'est-à-dire qu'il y a des coraux qui ont vraiment besoin d'être proches de la surface pour avoir beaucoup de lumière, il y en a d'autres qui sont adaptés à être profonds. Alors peut-être que ça va permettre à ces autres coraux de se développer, ça, on ne peut pas toujours tout savoir. Après, est-ce que j'ai une solution? Les solutions, elles ne sont pas... facile, en tout cas, c'est pas moi comme ça du jour au lendemain, c'est l'action de chacun tous les jours de réduire les impacts environnementaux, c'est-à-dire la pollution de l'air, notamment avec les gaz à effet de serre, c'est-à-dire prendre moins sa voiture, prendre moins l'avion, des choses comme ça.
Et est-ce qu'on peut faire en sorte que les coraux
grandissent plus vite? Alors, ponctuellement, on sait faire en sorte que dans un petit endroit, dans un aquarium ou dans un petit site, on va pouvoir l'aider à pousser un peu plus vite, mais pas à l'échelle de tout un récif et de la planète.
Donc, le gardien, on peut vous écouter si vous avez une question.
J'ai une question. Est-ce que vous avez découvert tous les espaces maritimes de la Nouvelle-Calédonie?
Alors, découvert, non, et aller partout, non. Alors, je suis allé dans un grand nombre d'endroits des récifs de la Nouvelle-Calédonie. Hein. J'ai eu la chance, dans plein de missions, d'aller dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, dans les îles Loyauté, dans les récifs éloignés, Chesterfield, Walpole, tout ce que tu veux. Mais après, c'est tellement grand que j'ai pas été partout. C'est comme si je disais, je suis allé à Bouraille, mais je suis pas allé dans toutes les rues de Bouraille. Hein. Je suis allé dans les récifs du Lagon Nord, mais je suis pas allé dans chaque morceau de récif, dans chaque petite faille. Donc, globalement, je suis allé un peu partout, mais il y a tellement de complexité de petits endroits que j'ai pas tout vu. Il en reste. Et je m'émerveille à chaque fois que tu viens. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question?
Oui.
Une question ici?
Ah, une question. Si alors, la question, c'est comment est-ce que on vous entend.
Le gardien, attention, on vous entend. Ça brouille l'écoute.
Donc la question, c'est comment est-ce que les poissons attrapent la gratte? Alors, en fait, la gratte, ça vient d'une algue. Cette algue, c'est une cyanobactérie. Et en fait, cette algue, elle va pousser sur le récif, plutôt là où c'est dégradé, donc sur des coraux cassés, morts ou des choses comme ça. Et en fait, cette algue, elle va développer une toxine qui s'appelle la ciguatoxine. Et en fait, comment ça marche? C'est un phénomène d'accumulation dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que cette algue, elle est mangée généralement par des petits poissons, qu'on appelle des brouteurs. Donc eux, ils vont brouter l'algue. Et puis, ils vont en avoir un petit peu de cette toxine à l'intérieur d'eux. Mais un petit peu. Et puis, il y a des plus gros poissons, par exemple une loche, qui va manger ce petit poisson. Mais une loche, ça vit longtemps. D'accord? Une loche, ça peut vivre, une saumonée, par exemple, ça peut vivre jusqu'à 30 ans. Donc pendant toute sa vie, des petits poissons comme ça, elle va en manger plein. Et donc à chaque fois qu'elle mange un petit poisson qui a un petit peu de toxines, elle va en accumuler. Et en fait, elle l'élimine pas, ou peu. Et donc à chaque fois, elle va accumuler un peu de toxines. Alors, la saumonée n'est pas un bon exemple parce que c'est un poisson qui n'est pas gratteux, mais si on prend une loche gros point par exemple, elle va accumuler un peu de toxines petit à petit jusqu'à en avoir beaucoup dans son corps. Elle, ça lui fait rien, elle est habituée à ça. Elle est capable de vivre avec. Mais si nous, après, on pêche cette loche et qu'on la mange, nous, notre corps, il n'est pas capable de faire face à cette toxine. On va le manger, tout d'un coup, on va avoir une grosse dose d'un coup. Et puis, ça va être assez dangereux pour nous. Donc, suivant la dose, les effets sont plus ou moins forts. Une autre question, là.
C'est vrai que quand on t'attrape la grappe la première fois, après, c'est une geste.
Ah non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la gratte, quand on l'a déjà attrapé, on a plutôt tendance à l'avoir plus facilement après. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout une maladie, on va dire, comme un virus ou une bactérie. Ton système immunitaire, il peut se défendre. C'est pas du tout ça. C'est une toxine dans ton corps qui s'accumule. Donc, mettons que tu as un certain niveau, d'accord? Tu n'as jamais mangé de poisson gratteux, ton niveau, il est à zéro, il est là. Tu en manges un petit peu, il est là. Peut-être que tu ne vas rien sentir, tu en as un petit peu. Et puis là, tout d'un coup, tu manges un poisson, il a beaucoup de gratte, tu vas passer là, tu vas être malade. Et après, petit à petit, ton corps, ça met longtemps à passer la gratte. Petit à petit, ton corps, il va réussir à l'éliminer doucement, tu vas redescendre là, ça va aller mieux. Mais c'est quand même à un niveau qui est loin du zéro. Hein. Là, tu ressens plus là, peut-être tu vas en remanger juste un petit peu, un poisson à peine gratteux, pas beaucoup, tu vas repasser là, et là, tu vas ressentir les effets. Ok?
Alors,
Alors, juste pour info, pour nos autres, pour les autres collèges et lycées, il nous reste à peu près une minute. On va répondre à... Si vous avez encore des questions, préparez-les.
Alors, d'abord, on a une question. Est-ce que les coraux, ils se...
Se replantent.
Se replantent. Alors, naturellement, ils se reproduisent. Donc, les coraux libèrent des œufs dans l'eau. Et ces petits œufs, ça va être des petites larves qui vont voyager. Et puis après, à un moment, quand elles se sentent prêtes, hop, elles viennent se fixer sur le récif, là où il y a de la place. Et ça fait un nouveau corail. D'accord ? Ça, c'est le phénomène naturel. Après, dans certains endroits, l'humain essaye d'aider les coraux. Et on fait ce qu'on appelle du bouturage, comme avec les plantes. On prend un petit bout, on coupe une petite branche, un petit morceau sur un corail vivant, puis on le replante à un endroit, on le met avec un peu de colle ou de ciment, et puis hop, il repart. Alors il y a des espèces avec lesquelles ça marche bien, d'autres ça marche moins bien, mais ça marche dans une petite zone, ça marche pas à grande échelle. Est-ce que dans les autres collèges lycées, il y a des questions? Dernière question ou quoi? Non? Si, une dernière, il n'y a pas une question par ici là? Il n'y avait pas un de vous là qui avait une question tout à l'heure? Non.
Est-ce que vous avez des questions par rapport au métier de scientifique? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux maladies ou bien aux médicaments qui viennent de la mer pour la prochaine fois éventuellement? Bien, allez-y, on vous écoute. Il y a des mains qui sont levées?
Ça va, j'en ai un, ouais.
Dernière question?
Dernière question. Ça dépend, on marche sur le coup, après ça nous gratte un peu, c'est quoi?
Oui, bah, quand tu marches dans le corail, ça te fait une petite plaie, hein, une petite coupure. Et puis bah, souvent, en fait, tu vas avoir pas mal de petites choses qui vont rentrer dedans. Donc ça peut être le corail lui-même. Tu peux avoir un morceau de corail qui reste. Ou tu peux avoir des bactéries qui sont dans l'eau. Et après, ça va s'infecter, ça gratte parce que dedans...
On embrasse le collège qui s'en va. On va dire au revoir aussi. On est le dernier. On va encore. Donc on dit au revoir.